Alors, j'aimerais vous inviter à tourner avec nous dans le livre des Actes, s'il vous plaît, au chapitre 16. Acte 16. Alors que mon épouse va nous lire la parole de Dieu, des versets 16 à 40. Acte 16, 16 à 40. Ce matin, la parole va être lue dans la version du semeur. Alors, si ce n'est pas la version que vous avez, ça peut être un peu, des fois, distrayant. Je tenais à le mentionner. On va écouter ensemble la parole de Dieu, Acte 16, 16 à 40.
Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à
notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination, et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête, « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. » Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'Esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette femme. » À l'instant même, il la quitta. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leurs espoirs de gain s'étaient évanouis, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. « Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. » La foule se souleva contre eux. Alors, les magistrats les firent arracher leurs vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête! Ne te fais pas de mal! Nous sommes tous là! » Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu, à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Alors même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il fit jour, les magistrats envoyèrent les huissiers à la prison pour faire dire au gardien « Relâche ces hommes ». Celui-ci courut annoncer la nouvelle à Paul. « Les magistrats m'ont donné ordre de vous remettre en liberté. Vous pouvez donc sortir maintenant et aller en paix. » Mais Paul dit au huissier, « Comment? Ils nous ont fait fouetter en public, sans jugement régulier, alors que nous sommes citoyens romains, puis ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils voudraient se débarrasser de nous en cachette. Il n'en est pas question. » Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. » Les huissiers rapportèrent ces paroles aux magistrats. Ceux-ci, en apprenant qu'ils avaient affaire à des citoyens romains, furent pris de peur. ils vinrent en personne leur présenter des excuses, leur rendirent la liberté et leur demandèrent de bien vouloir quitter la ville. À leur sortie de prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie, où ils retrouvèrent tous les frères et ils les encouragèrent, puis ils reprirent la route.
On va prier ensemble. Bien, Père éternel, merci Seigneur pour ta parole. Merci Père pour ce passage du livre des Actes où on voit ces deux hommes avec un cœur consacré à toi, qui sont disponibles, Seigneur, et on voit comment tu interviens dans leur vie, dans les circonstances, comment tu bouleverses une journée, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, afin, Seigneur, que l'Évangile puisse atteindre cette famille. Je te prie, Père, de parler à nos cœurs ce matin. Dispose nos cœurs à voir comment ce passage s'applique dans nos vies, dans nos circonstances, Seigneur, que tu viens bouleverser bien souvent de différentes manières et comment nous pouvons te servir à travers ces circonstances. Père, je te prie de parler au cœur de ceux ici au milieu de nous qui ne connaissent pas personnellement Jésus-Christ. Seigneur, montre-leur ton amour et ta grâce et comment tu as aimé cette famille, Seigneur, avec ce geôlier à travers tes serviteurs. Viens saisir nos cœurs ce matin, c'est en Jésus que nous te prions. Amen. À la veille de Noël, on se prépare à aller dans les fêtes, tout ça. Tout à l'heure, Suzy était ici pour nous parler du dépouillement, et puis on se prépare à aller voir la famille. Moi-même, je vois des gens dans ma famille, des gens qui sont très proches à moi et que j'ai à cœur de voir venir à la connaissance de Jésus-Christ. Je voudrais qu'ils puissent accueillir le message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il se peut que vous soyez déjà en train de prier, en train de réfléchir comment, quoi. Je priais pour quelqu'un cette semaine, puis la semaine dernière, puis je disais, ça fait longtemps que j'ai pas présenté l'Évangile au complet à cette personne-là. Puis juste revoir encore la discussion, offrir l'opportunité d'aller un petit peu plus loin dans l'Évangile. Alors déjà, je suis en train de prier, puis commencer à réfléchir comment ça va se passer. Certains d'entre vous, c'est peut-être par rapport au dépouillement. Nous, on va revoir une famille que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu au dépouillement, Dieu voulant. Alors, on est en train de projeter ces affaires-là. Maintenant, ça ne prend pas beaucoup d'expérience à essayer d'annoncer l'Évangile à des gens pour savoir que ça se passe rarement exactement comme tu l'avais planifié, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des obstacles qui sont suscités par les réactions des gens, par des circonstances, par toutes sortes de choses. Mais ça se passe rarement comme on l'a planifié. Mais c'est ce qui arrive avec ces deux gars-là. Paul et Silas sont arrivés dans la ville de Philippe, ils se sont rendus au lieu de prière, ils ont annoncé l'Évangile là-bas, puis Dieu a aplani les sentiers en disposant le cœur, entre autres de Lydie. Il nous est dit, Luc commente en disant que Dieu a ouvert, a amené son cœur à être attentif au message de l'Évangile et elle a accepté le Seigneur. Et donc, il y a quelques personnes là, qui acceptent le Seigneur, la maison de Lydie, Paul et Silas sont gonflés à bloc. Ça va vraiment bien dans cette ville-là. Et donc, quelques temps après, les gars décident de retourner au lieu de prière pour pouvoir continuer à annoncer l'Évangile, puis annoncer le message de l'Évangile à d'autres personnes. En cours de route, Dieu va permettre qu'un paquet de choses se passent et leur journée ne va pas se terminer de la manière qu'ils l'avaient planifiée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Les gars vont terminer en prison quelques jours plus tard. Donc, cette période-là va mal se passer, d'accord? Les choses ne vont pas comme ils l'avaient prévu. C'est généralement comme ça lorsqu'on veut annoncer l'Évangile. Les choses se déroulent rarement comme nous le prévoyons. Ce matin, on va voir ensemble, c'est vrai, la prédication de l'Évangile suscite de l'opposition. Maintenant, écoutez bien ceci. Ce que ce passage-là nous dit, ce que l'expérience de millions de chrétiens nous disent aussi, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle réel. Par la foi en un grand Dieu, il y a des opportunités nouvelles. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Le prix peut être fort cher à payer pour voir les choses comme ça. Mais c'est ce que ce passage-là nous enseigne. La prédication de l'Évangile suscite de l'opposition, mais il n'y a pas d'obstacle réel. Par la foi en un grand Dieu, il y a des opportunités nouvelles pour annoncer l'Évangile. Et je le résume comme si, comme ceci en trois points. On va voir ensemble les oppositions. On va voir ensemble est-ce qu'il est question d'obstacles ou d'opportunités en réalité et la foi qui a été nécessaire chez ces deux frères-là pour pouvoir voir l'opportunité que Dieu était en train de créer pour eux pour pouvoir annoncer l'Évangile. Alors évidemment, dans le contexte, on voit, et je sais, ce serait intéressant d'aller discuter un peu l'esprit de Python, c'est quoi cette affaire-là. En 15 secondes, vite, c'est vraiment ça qu'on a dans le grec. Et l'idée, simplement, c'est qu'une divinité grecque de l'époque avait cette image d'un serpent, qu'il s'incarnait en serpent, et ses prêtresses, qui étaient des devins, donc qui faisaient de la divination, étaient appelées des pythonesses, si on peut dire, ça sonne drôle en québécois, d'accord? Et donc, c'est cette idée-là, c'est que Paul et Luc vont identifier cet esprit impur qui est sur cette femme comme un esprit de divination et ils vont l'associer avec cette influence-là. Et c'est ça qu'on a là. C'est pourquoi dans la sommaire, vous allez avoir plutôt un esprit de divination qui est mentionné. Mais donc, les gars s'en vont pour annoncer l'Évangile et ils vont avoir de l'opposition sur différents plans. Si j'essaie de les résumer brièvement, il va y avoir de l'opposition sur le plan spirituel. Je m'en vais parler de Dieu. Et ce serait complètement farfelu, insensé, ridicule de m'attendre à ce que le diable fasse le party. D'accord? Alors, il va y avoir de l'opposition spirituelle. Il y en a ici. Ça peut avoir l'air intéressant d'avoir cette personne-là qui est là puis qui crie à tue-tête. Ces hommes-là sont des envoyés de Dieu. Ils sont venus pour vous annoncer comment être sauvés. Tu sais, c'est un porte-voix de la place, quelqu'un qui est consulté régulièrement. Maintenant, imaginez la confusion un instant. Imaginez la confusion du message. Quand vous avez quelqu'un qui est reconnu pour être possédé d'un esprit de divination, qui est là en train de dire qu'on doit écouter ton message. Imaginez la confusion un peu pour les auditeurs qui peuvent se demander, attends un peu, c'est du même esprit dont on parle? Est-ce que ces gens-là sont serviteurs du même Dieu? Et donc, après quelque temps, Paul décide qu'il en a assez et chasse cet esprit un peu, comme Jésus l'avait fait. Chasse cet esprit un peu, prend autorité au nom de Jésus-Christ, parce que cette opposition-là, spirituelle, qui est présente. Il y a de l'opposition humaine dans le passage, autant sur le plan des autorités légales que de la population. Voyez-vous, dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est que l'Évangile vient bouleverser un peu l'économie locale. Paul et Silas n'avaient pas de projet pour venir affecter l'économie locale, mais lorsque l'Évangile arrive dans un milieu, il va avoir un impact social et local. C'est un effet inévitable de ça. Et donc, lorsqu'ils décident de chasser cet esprit de Python, ben, ses propriétaires perdent une source de revenus. Ça a donc un impact sur leur économie. Cette femme-là est libérée. C'est pas ça qui, ça les émeut pas particulièrement, n'est-ce pas? Elle était une esclave. C'était donc un outil pour eux. Mais ceci a un impact et à ce moment-là, la population va suivre, va emboîter le pas et ça va créer une opposition humaine. Les gens vont réagir au message. Les autorités vont embarquer là-dedans. Et les autorités commettent une faute importante ici, ils prennent même pas le temps de s'enquérir à savoir est-ce que ces gars-là sont romains, parce qu'il y avait une loi différente pour les étrangers de celle concernant les citoyens romains. Et donc, ils prennent même pas le temps de vérifier, attends un peu, est-ce qu'on a le droit de les traiter comme on voudrait les traiter? La foule réclame quelque chose, ils semblent amener du trouble, de troubler la paix publique. Et donc, ils auraient dû se poser la question avant de, en quelque sorte, les livrer à la foule, à l'intention de la foule, se renseigner pour savoir qui sont ces gars-là. Mais ils sont romains, on peut pas faire ça comme ça. Il va falloir les amener devant un tribunal, il va falloir se prononcer en écoutant la cause comme il faut. Mais peu importe, il y a de l'opposition sur le plan humain. Et ça va aller jusqu'à changer complètement leur projet, qui va amener une opposition physique, si je peux le dire comme ça. Non seulement les deux hommes vont être battus, et probablement qu'il y avait d'autres chrétiens à ce moment-là, ces deux-là ont été battus parce que c'était les porte-paroles, d'accord? Et si vous êtes attentif au passage, vous allez voir que les accusateurs, en réalité, sont en train de dire « Ah, oh, ils viennent troubler la paix sociale, puis ils vont avec un peu d'antisémitisme contre les Juifs, tout ça. » D'accord? C'est n'importe quoi. Ils sont frustrés, les gars, parce qu'ils ont perdu leur source de revenus. Mais tout ça va amener Paul et Silas à être battus physiquement et à être jetés en prison. Si tu parles de l'opposition physique qui vient changer tes projets, de vouloir annoncer l'Évangile, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose de pire pour Paul que d'être enfermé en prison à ce moment-là? Et donc, il va y avoir de l'opposition spirituelle, il va en avoir sur le plan humain, il va y avoir des situations physiques qui vont faire que tu ne pourras pas le faire, tu ne pourras pas annoncer l'Évangile tel que toi tu l'avais planifié, tel que toi tu l'avais prévu dans ton esprit. Maintenant, j'aimerais suggérer, même si ce n'est pas là dans ce texte-là, qu'il pourrait y avoir de l'opposition je veux dire personnel, d'accord? Un obstacle qui est plus sur le plan personnel. C'est pas le cas avec Paul et Silas. Mais à celui qui ne réagit pas comme Paul et Silas dans des circonstances semblables, je deviens mon propre obstacle à annoncer l'Évangile. Leur réaction va faire toute la différence. Maintenant, lorsqu'on lit l'histoire attentivement et on regarde comment est-ce que ça se développe et qu'est-ce qui va se passer avec ça, est-ce qu'on peut vraiment parler d'obstacle à l'Évangile? Si je me mets dans la peau de Paul et Silas avec leur projet ce matin-là, les gars, ils sortent, ils disent, la dernière fois qu'on est allé là, à cette place de prière-là, il y a des gens qui ont cru en Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Je pense que Dieu veut sauver plein de gens ici. Let's go, on y va, ils s'en vont annoncer l'Évangile. Et ils terminent en prison battus. Moi, si je me mets à leur place, je pense que j'aurais vu ça comme un obstacle, mettons. Je veux dire, si tu annonçais l'Évangile au cégep, à l'université, à des collègues de travail, au bureau, et que ça voulait dire, tiens, tu perds ta job. On va te jeter en prison. Tu es chassé de l'école. Je sais pas, je verrais ça comme un obstacle. Pourtant, l'histoire nous montre que lorsqu'on est en train de servir un grand Dieu, il n'y a pas d'obstacle véritable, il n'y a pas d'obstacle réel. C'est pas une vue de l'esprit là, que je suis en train de faire pour dire « think positive, think positive », on va tourner ça au mieux. Non, je suis entre les mains d'un Dieu souverain qui est au contrôle de ces choses-là. Voyez-vous, je ne suis pas en train de forcer une autre lecture des circonstances. Parce que les résultats parlent pour eux-mêmes. Les gars voulaient voir des gens venir à Christ. Ils vont voir une famille entière venir à Christ. Les gens les plus improbables, les autorités qui commencent à se convertir. Voyez-vous, c'est le geôlier. Dans Philippiens 1, Paul écrit à l'église de Philippe, beaucoup plus tard, on est à Philippe ici, Paul écrit à l'église de Philippe, alors qu'il se retrouve dans des circonstances un peu similaires. Paul aimait fréquenter les prisons. Philippiens 1, versets 12 à 14, « Alors qu'il est en prison, il écrit aux chrétiens de Philippe, « Je tiens à ce que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. » En effet, toute la garde prétorienne, les soldats qui étaient là, et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Paul avait appris avec les années qu'il sert un Dieu souverain. Il sert celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et donc, lorsqu'il est consacré à servir Dieu et qu'il y a des obstacles qui apparaissent devant lui, Paul a appris avec les années à ne plus voir ça comme des obstacles, mais à essayer de comprendre ce que Dieu est en train de faire pour se placer au service de ce Dieu souverain. Maintenant, Paul et Silas avaient quatre qualités de foi. Je l'ai appelé ainsi la foi pour laisser Dieu transformer les obstacles en opportunités. Et je pense que c'est l'application la plus concrète pour nos propres cœurs, chacun d'entre nous. Alors qu'on désire témoigner, on désire annoncer l'Évangile dans notre famille, avec nos enfants, avec nos parents proches pendant les fêtes, on va voir de la famille, vous allez aller dans des parties de bureau, vous allez vouloir témoigner la semaine prochaine avec le dépouillement. Et donc, on se propose de faire ça, d'annoncer l'Évangile à des gens qu'on aime, on prie pour eux. Puis on planifie des trucs pour pouvoir leur parler du Seigneur. Mais on ne sait pas comment est-ce que ça va tourner. La foi pour laisser Dieu transformer les obstacles en opportunités. Paul et Silas avaient premièrement un cœur consacré au service de l'Évangile. C'est sûr que si Paul et Silas, ce matin-là, avaient décidé que, bon, il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour annoncer l'Évangile, puis oui, ils vont à l'église le dimanche, donc ils sont chrétiens, ils pourraient se faire identifier comme chrétiens, mais ils sont là en train de développer leur business, leurs affaires, leur travail, tout ça, et ils ne sont pas vraiment intéressés par ce vol-là qui est le royaume. Et si Dieu avait permis qu'on découvre qu'ils sont chrétiens puis qu'on les embarque avec les autres en prison, bien, peut-être qu'ils auraient été contrariés à ce moment-là. Mais Paul et Silas cherchent d'abord le royaume de Dieu. Et je pense que c'est la première qualité qu'on trouve chez eux. Ils cherchent d'abord le royaume de Dieu et ils servent un Dieu souverain. Alors, il n'y a pas beaucoup d'obstacles qui peuvent vraiment être des obstacles pour eux. Ils sont en train de chercher le royaume de Dieu et Dieu souverain. Ils sont consacrés au service de l'Évangile. Si ton cœur est consacré à te bâtir un petit royaume sur la terre. Si le christianisme te sert à mettre de l'ordre dans ta vie pour jouir de manière plus sage de ce monde matérialiste dans lequel on vit, ça se peut que les obstacles soient vraiment des obstacles à tes projets. Ça se peut que ça vienne vraiment te mettre des bâtons dans les roues. Mais si mon cœur est consacré au royaume de Dieu, et ce que je cherche, comme Jésus nous l'a enseigné, je cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, je sais que mon Dieu est souverain et qu'il gouverne ma vie et les circonstances autour de moi. Paul et Silas avaient des cœurs consacrés au service de l'Évangile. Deuxièmement, ils avaient comme ressource, comme secours, la prière et la louange. C'est la ressource de celui qui croit. Au verset 25, on lit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. » Je ne sais pas quel est possiblement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais possiblement que Dieu t'a envoyé dans une prison. Tu es placé dans une circonstance, dans des circonstances, dans des relations, dans des situations qui sont hors de ta volonté. Tu ne voudrais pas être placé là, dans cette prison. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Certains d'entre vous, vous êtes dans une prison actuellement. Ça peut être des relations, des circonstances, des situations que Dieu permet, toutes sortes de choses. Vous êtes dans cette prison-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est, cette prison-là. Qu'est-ce que vous faites pendant que vous êtes dans cette prison? Qu'est-ce que Paul et Silas allaient faire? Les deux gars ont le dos labouré par la verge qui les a battus. Ils ne savent pas si demain ils vont vivre. Toute probabilité est qu'ils vont probablement mourir. Ils n'ont aucun contrôle sur leur destinée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pleurer? Oui, ça va leur donner quoi? Paniquer? Ce serait stupide, honnêtement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à louer Dieu et à prier. Parce que de toute manière, Dieu leur a dit clairement, « Regarde, c'est parce qu'il y a une porte, il y a des murs, puis ça a l'air que c'est moi qui va faire quelque chose s'il y a quelque chose qui se passe ici. C'est pas toi. » Je ne sais pas quelle est la prison où Dieu t'a placé, mais Dieu t'a placé là pour son service. Dieu t'a placé dans cette prison pour son service. C'est pour ça qu'il l'a fait. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Et même si des gens ont voulu te faire du mal à travers ça, Dieu t'a placé là pour son service. Pendant qu'ils sont là au milieu de la nuit, ils font la seule chose sensée à faire. Et bien honnêtement, je me posais la question de savoir si je l'aurais faite moi-même. Mais je veux me la poser la question, parce que c'était la bonne chose à faire. Prier Dieu, qui est le seul qui peut ouvrir cette porte-là pour qu'on puisse sortir, et le louer parce qu'il est souverain. Parce que Lydie vient de se convertir. Lydie vient d'accepter le Seigneur. Je suis prêt à partir, moi. Je suis prêt à partir, Seigneur. Je viens d'avoir une autre famille venir à toi. Je suis prêt à partir. J'ai fini mon travail ici, si tu l'as décidé. Ils ont cette ressource extraordinaire qui est la prière et la louange. Et c'est la ressource que Dieu te donne dans la prison où tu es parce que tu as été placé là pour servir Dieu. Troisièmement, ils ont un amour et une générosité vraie pour leur prochain. Bon, le contexte est extraordinaire, comme c'est souvent le cas dans les Actes. Ceux qui n'êtes pas familiers avec les Actes, la vie chrétienne ne ressemble pas toujours à des tremblements de terre et des esprits de pitons qui nous suivent. C'est vraiment des circonstances exceptionnelles. Et il y en a plein comme ça dans les Actes, mais c'est exceptionnel. Mais les portes de la prison s'ouvrent. Moi, personnellement, je ne me serais pas posé de questions longtemps. Hein? J'ai entendu l'histoire de Pierre, tu sais, en prison. Dieu veut me faire sortir, c'est clair. Et j'aurais pris mes jambes à mon cou, mais je me serais sauvé en courant. Maintenant, on est dans le contexte romain. Le soldat qui va perdre ses prisonniers va mourir. Et donc, ces hommes-là, devant cette prison dont les portes s'ouvrent, les chaînes tombent, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de rester là. Les gars, vous avez une job à faire. Il n'y a pas beaucoup de prédicateurs comme vous actuellement. Sauvez-vous. Quand le geôlier arrive, le geôlier fait la seule chose sensée à ses yeux, à lui, sort son épée pour se suicider. Vaut mieux suicider à la pointe d'une épée que d'être battu, torturé, humilié. Mais Paul et Silas ne sont pas là pour se servir eux-mêmes. Ils sont là pour servir Dieu et aimer leurs prochains. Et si cela implique qu'ils attendent patiemment dans la prison pour garder le contrôle, à ce point-ci, il y a un nouveau contremaître dans la prison. Vous avez remarqué, c'est Paul. Hein? C'est le Joseph de l'époque, dans cette prison-là. Il est en train de diriger la prison. Il s'assure que les prisonniers restent tranquilles. Et il attend. Parce que Paul et Silas étaient là pour servir Dieu et pour aimer leur prochain. Quand tu planifies d'annoncer l'Évangile à des gens, vous savez comment est-ce qu'on est. On planifie d'annoncer l'Évangile. Je voudrais t'annoncer l'Évangile, mon Alex. Je voudrais te parler du Seigneur. Puis, excusez-moi, je vais le dire en québécois, mais tu m'envoies une vacherie, mon homme. Là. Ça me tente plus. Ça me tente juste comme plus. Là. Non, tu sais, tu me refroidis, là. Et c'est ça qui se passe, hein? Il arrive des situations où on veut aller voir des gens, tout ça dans la famille, puis il y a des situations qui se produisent, puis oh! Mais est-ce que je suis là pour la personne? Est-ce que je suis là pour elle, pour son salut? Est-ce que je veux l'aimer elle? Ces deux hommes-là cherchaient d'abord le royaume de Dieu et aimaient leur prochain au point de mettre leur vie en péril. Ils étaient prêts à sacrifier leur propre vie. Et quatrième qualité, ils avaient un message clair et limpide. Du début, simplement, tout ce qu'ils vont dire, parce que là, le geôlier n'en revient pas et dit, « OK, mes seigneurs, messieurs, comment est-ce que je fais pour être sauvé? » Est-ce qu'ils avaient entendu prêcher avant? Je ne sais pas, mais voici ce qu'ils posent comme question. Le message au départ est super simple. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Le verset suivant nous dit qu'ils ont pris le temps de développer cette proposition-là. On va vous expliquer ce que ça veut dire maintenant, ça. Mais le message est là, sur leurs lèvres, il est clair, il est limpide. C'est la quatrième qualité que je vois ici, alors que je veux aller annoncer l'Évangile, que des situations vont aller dans d'autres directions, il va y avoir de l'opposition. Je veux proclamer l'Évangile à mes amis, à ma famille, à mes enfants, à mes proches, toutes les gens que je vais côtoyer la semaine prochaine au dépouillement. Il va y avoir de l'opposition sur toutes sortes de formes. Je veux avoir ces quatre qualités-là dans mon cœur. De savoir que je suis premièrement en train de chercher le royaume de Dieu, d'abord et avant tout. Que mon Dieu est souverain, c'est lui que je suis en train de servir. Mon cœur est consacré au service de l'Évangile. J'ai cette ressource à tout moment, lorsque l'opposition se lève et que les choses semblent aller dans une autre direction, j'ai cette ressource de la louange et de la prière. Parce que je veux me rappeler que c'est Dieu qui règne sur toutes ces choses-là. Que mon Dieu est au contrôle de ce qui semble être des obstacles réels, mais je veux juste voir comment Dieu est en train d'agencer, de travailler pour me donner de nouvelles opportunités. Tout simplement, je veux être certain que mon cœur est consacré entièrement à aimer les gens qui sont devant moi. Je ne suis pas là pour Yannick qui veut annoncer l'Évangile, je suis là pour eux afin qu'ils reçoivent l'Évangile. Et si cela veut dire que je suis prêt à souffrir davantage pour eux, je vais le faire. Je vais rester là, dans cette prison-là, lorsque les portes s'ouvrent. Je ne dis pas que c'est ce que Dieu veut pour vous, nécessairement, mais c'est la disposition de cœur de ces deux hommes-là à ce moment-là. Et je vais m'assurer que je saisis bien l'Évangile, que je sais prêcher l'Évangile, que je sais annoncer l'Évangile. Je sais que ce n'est pas simple pour tout le monde. On vous donne de la formation pour ça. On donne des cours pour ça. Si tu as peur de te retrouver dans une situation où tu pourrais annoncer l'Évangile parce que tu dis, « Ouais, mais je sais pas par où je vais commencer. » Viens prendre les cours, viens prendre la formation. C'est le plus beau cadeau que tu vas pouvoir donner à Noël. Il faut que tu l'aies comme ça, là, sur le bout de la langue, là, que tu sois prêt à le donner. Et voyez-vous, ce passage-là se termine comme le livre des Actes le fait depuis le début. On trouve le geôlier, qui n'était certainement pas juif, qui était un adversaire, qui était un ennemi, qui, lorsqu'on lui a confié Paul et Silas, les a sûrement maltraités un peu plus, méprisés un peu plus. Et on trouve ces deux missionnaires-là qui sont consacrés à Dieu et ils mangent ensemble un repas en parlant de l'Évangile. Et on voit cette grâce merveilleuse de la communion de ces gens qui étaient des ennemis, qui sont rassemblés par l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que deux hommes, n'ont pas douté un instant que les obstacles qui étaient en train de se lever devant eux étaient en fait des opportunités que Dieu était en train de préparer pour qu'ils puissent conduire d'autres personnes à Jésus-Christ. Amen. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, je veux te rendre grâce pour ta parole. Tu m'as béni, Seigneur, dans ce passage. Tu as préparé mon cœur pour parler de toi, Jésus, dans les semaines à venir. Pour accepter, Seigneur, les moments où j'aurais tellement de bonnes intentions pour parler de toi, mais les choses ne tournent pas comme je voudrais, Seigneur, et ne pas me décourager. Pour voir autrement les circonstances où tu m'as placé et comprendre que c'est toi, Seigneur, qui es souverain, qui permet que j'y sois. Afin que par mon amour pour toi, par mon amour pour les gens autour de moi, par mon cœur consacré à chercher ton royaume d'abord, tu puisses te servir de moi et ouvrir de nouvelles opportunités pour l'Évangile. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on voit comment tu veux travailler dans nos familles, auprès de nos proches, auprès de nos collègues de travail, à l'école, Seigneur. Samedi prochain, alors qu'on va être avec ces familles qu'on connaît très peu, ouvre nos yeux pour que nous ayons les yeux de la foi et que nous te voyons, Seigneur, créer de nouvelles opportunités. Et qu'avec un cœur généreux, un cœur consacré, Seigneur, nous soyons prêts à nous donner et à donner ce message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Amen.
C'est bon pour nous de savoir que lorsqu'on fait l'œuvre de l'Évangile, qu'on travaille à l'œuvre de Dieu, notre Dieu est souverain.